C'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Okapi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le ton qui fait la panique, votre magazine qui décrypte l'impact des mots, des discours et du langage sur notre société. Notre thème de ce jour concerne le langage utilisé en période de conflit. Comme vous le savez, chaque guerre, chaque conflit crée une polarisation entre deux camps. D'un côté, ceux qui se perçoivent comme des victimes et de l'autre, ceux qui sont accusés d'être les bourreaux. Mais ce langage, loin d'être neutre, manque souvent de nuances et d'égalité, Babel.
Oui, Pauli. Depuis la résurgence du groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda, on entend des discours qui semblent banaliser la souffrance de certaines victimes. Cette souffrance pourtant partagée par tous les hommes, les femmes et les enfants affectés par ce conflit semble être minimisée ou ignorée. Le niveau d'empathie dans le langage varie selon que l'on se sente proche d'un camp ou de l'autre.
Alors comment ce langage façonne-t-il notre perception des enjeux du conflit? Pourquoi certaines souffrances semblent-elles banalisées, voire invisibilisées dans certains discours publics? Et surtout, comment peut-on promouvoir un langage plus juste et plus solidaire envers toutes les victimes sans distinction? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir de recevoir deux invités.
Le premier, Albert Maloukissa, docteur en études du développement, professeur à la faculté des sciences politiques de l'Université catholique du Congo et chercheur associé à l'Université d'Anvers en Belgique. Bonjour Albert Maloukissa, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour madame, merci pour cette invitation également.
Avec nous également Josapha Moussamba, il est chercheur, spécialiste des dynamiques sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il prépare une thèse de doctorat en sciences politiques à l'université de Gand en Belgique. Il a récemment publié un article intitulé « Victimes d'aujourd'hui, bourreaux d'hier » dans lequel il analyse les versions contradictoires des violences dans les hauts plateaux d'Ouvira, Fizi et Mwenga dans l'Est du pays. Bonjour Josapha Moussamba et merci encore une fois d'être avec nous.
Merci de m'associer à ce débat poli. Merci beaucoup.
Alors ensemble, nous allons tenter de comprendre comment ce type de langage employé en période de conflit influence notre perception des enjeux et comment il peut parfois exacerber les divisions. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je vous propose d'écouter un premier extrait de notre sketch radiophonique. Cette scène se déroule dans un centre médical universitaire où des étudiants discutent après un incendie qui a ravagé une partie de leur campus. Suivant.
Quelle catastrophe!
Non mais... Seigneur!
Mais je me rends compte seulement maintenant que cet incendie au campus a fait vraiment des dégâts.
Mais c'est grave! C'est vraiment grave!
Mais vous avez vu tous ces blessés là? L'hôpital est complètement débordé!
Non mais moi je commence à avoir peur que même l'argent donné par la direction pour aider les victimes risque de ne pas suffire.
Vraiment? C'est ce que je crains aussi. Parce qu'en plus des étudiants, je vois même des ouvriers qui sont blessés.
Elles ne sont pas concernées, non?
Comment ça, ils ne sont pas concernés?
Non mais attends, pourquoi tu dis ça? Écoutez les gars, cette enveloppe doit être réservée à nos camarades étudiants qui ont été blessés.
Exact.
C'est eux les vraies victimes.
Quoi?
Les autres?
Alors, comme s'il y a des vraies et des fausses victimes. À moins que je me trompe. Eux n'ont-ils donc pas souffert comme les autres?
Attends. Toi aussi, Mbouta. Des simples ouvriers qui n'ont aucun niveau d'études.
Des simples ouvriers
qui n'ont aucun niveau d'études.
Il ne s'agit pas des niveaux d'études, il s'agit de la vie humaine.
Tu veux les comparer aux étudiants valeureux qui ont été blessés?
Et
non,
d'ailleurs,
non.
Ils n'ont même pas été gravement blessés.
C'est des bêtises que vous
comment
racontez là.
Comment tu peux dire des choses pareilles?
C'est pas normal.
Ils ont les souffrances des autres.
Oh. Cette enveloppe d'aide doit être réservée à nos camarades étudiants qui ont été blessés. C'est eux les vraies victimes, pas les ouvriers, martèle l'un des personnages. Une phrase qui illustre bien comment le langage peut banaliser la souffrance de certaines victimes dont on ne se sent pas proche. Alors, professeur Albert Maloukissa, pourquoi est-il si difficile de se mettre à la place de certaines victimes des conflits ou des guerres?
Oui, d'abord... Il y a une reproduction sociale qui relève de l'éducation qu'on a reçue en termes d'inégalité. À partir du moment où l'éducation familiale, l'éducation scolaire développe des préjugés, ne cherche pas à soigner les contours des inégalités, ça fait en sorte que les étudiants, les élèves, ou la population en général, puisse de génération en génération reproduire des inégalités. Et là, vous voyez une catégorie qui se considère comme supérieure à l'autre. Et c'est ce genre de perception qui font en sorte que le conflit en RDC, violent et non violent, puisse s'accentuer au fil des années.
Mais alors, qu'est-ce qui...
Quand vous observez...
Allez-y, professeur.
Quand vous observez le fonctionnement de la société congolaise dans tous ses compartiments, c'est le même réflexe que nous avons. Ceux qui sont autorités considèrent que ceux qui dirigent leur doivent tout, alors que ça devrait être le contraire. Quand il s'agit de partager une ressource, vous avez toujours une poignée de personnes qui considèrent qu'ils doivent avoir la part du lion. Et malheureusement, c'est ce qui fait en sorte qu'en RDC, à cause de ces inégalités, à cause de ces perceptions fausses qui stigmatisent les autres, qui tend à réduire les autres, qu'il y ait trop de conflits qui nous amènent dans des situations désastreuses.
Et justement, professeur, comment est-ce que ce langage façonne-t-il notre perception des enjeux du conflit actuel, tout en renforçant la polarisation entre ceux qui sont perçus comme les ennemis et ceux qui sont perçus comme les patriotes, entre guillemets?
Oui, alors, il faut, dans le contexte congolais, par exemple, vous avez une certaine tension entre l'Est et l'Ouest. Il y a eu dernièrement ce qu'on a appelé la stigmatisation des swahilifones. Quand vous êtes dans les zones en conflit, vous avez des perceptions qui véhiculent parfois une passion de domination ethnique. Et tout ça, comme je l'ai dit, ça part de l'éducation de base. En famille, à l'école, on ne prépare pas suffisamment les citoyens, les citoyennes pour être plus lucides, pour avoir de la considération vis-à-vis de l'autre, autant soi-même, on doit la mériter. Ça se traduit par les actes que nous posons. C'est regarder aujourd'hui au Congo, la vie humaine est banalisée. Si ce qui se passe de l'autre côté, même avec les M23 et consorts, est à reprocher, mais on ne peut pas non plus généraliser, on ne peut pas assimiler tout le monde au M23. Même si on est M23, même si on est rebelle, il y a des droits humains que tout le monde doit respecter. Regardez les bilans humains lourds. Tous ces réfugiés que nous avons, c'est aussi le résultat de la mauvaise perception qu'on a de l'autre. On nie les droits des autres, on se considère comme supérieur à l'autre, et il y a une sorte de manque de cohésion sociale qui fait en sorte que, à cause de ces perceptions, nous ne puissions pas évoluer, que nous puissions décimer la société, que nous puissions décimer les vies humaines, malheureusement.
Merci, professeur Maloukissa. Je me tourne vers vous, Josaphat Moussamba. En observant le langage utilisé par les acteurs du conflit, pourquoi semble-t-il que chacun cherche à protéger uniquement ses propres intérêts, amplifiant les souffrances des victimes qui lui sont proches, tout en minimisant celles du camp en face?
Mon analyse et le travail que je fais justement à la base à l'Est du Congo sur les conflits, non seulement les conflits armés, les conflits de longue durée, qu'on peut regarder que ce soit à l'Ouest du Congo tout comme à l'Est du Congo, on va voir quelques éléments que je voudrais partager avec nos auditeurs. Le premier, c'est en fait la façon dont parmi ces éléments, il y a la construction d'une narratologie officielle dans le contexte de conflit. C'est-à-dire qu'on va construire un narratif, une narratologie qui explique en fait les raisons pour un camp. Deuxièmement, une des parties va dissimuler les crimes commis par, en fait, les acteurs qui sont mobilisés pour sa cause pendant le conflit et où ils ont soutenu la cause. Et donc, une façon de justifier un comportement violent dans un conflit armé ou pas, comme c'est le cas. Ensuite, c'est aussi le manque de connaissances et des cultures de mémoire des violences dans certaines zones. Parce que IAI, cette culture de mémoire, ça permet aussi de se regarder dans le miroir, de se remettre en cause, de regarder comment est-ce qu'une violence commise sur soi ou sur le voisin, comment ça affecte sa mémoire, ça affecte sa famille. Ensuite, je peux finir par l'impunité. Lorsque des violences commises ne sont pas punies et que des gens ne répondent pas de leurs actes, ceci n'est pas un élément qui parvient à clore ou bien à enrayer, mais ça permet à d'autres de reproduire ces pratiques de violence et ne pas avoir la compassion envers les victimes.
Et comment et pour quelle finalité les acteurs au conflit semblent justifier l'idée que certaines victimes et certaines vies auraient plus de valeur que d'autres? Est-ce qu'on ne perd pas un peu de notre humanité à ne pas reconnaître la souffrance des autres, justement?
Toutes les vies se valent. Et donc, moi, ce que j'observe dans la zone où je travaille, mes données de recherche, certains, comme a dit Poli et le professeur Maloukissa, certains pensent qu'ils sont supérieurs par rapport aux autres. Ils vont commettre des violences. On va, par exemple, incendier des villages. On va tuer les autres. On va les rasier leurs biens. Ça, c'est un élément. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Mais les autres aussi estiment qu'ils ont le droit de se défendre. Ils font de se défendre. Alors, minimiser les victimes des autres et penser que vous avez tué, si vous avez perdu 5 personnes, les autres en perdent 3. C'est ceux qui ont perdu 2. C'est très minime par rapport à ce qu'on pourrait considérer. Ce n'est pas juste. Et ça vient toujours, par exemple, par rapport au phénomène le bourreau, quelqu'un qui a produit peut-être un leader de groupe armé. C'est lui-là même qui commet le forfait. Si tu lui dis il a tué, il va répondre à ses actes, il va minimiser.
Merci encore une fois pour ces explications, Josapha Moussamba. Retrouvons maintenant nos amis, les étudiants, dans un deuxième extrait de notre sketch radiophonique. Cette fois, nous allons voir comment ces discours banalisant les souffrances des autres commencent à avoir de sérieuses conséquences. Écoutons.
Mais Amen, pourquoi tu te jettes comme ça?
Trop agité.
Qu'est-ce qui te démange dans ce que j'ai dit?
Mais oui, attends. On ne peut pas comprendre que tu veux exclure les ouvriers sur cette liste de ceux qui vont bénéficier de l'aide.
Oui, en tout cas, c'est parce que eux aussi sont des victimes comme nous tous. Tout le monde y est victime.
Désolé, mais je ne dirai pas de gaspillage de ressources.
Voilà, gaspillage, ma casse.
Mais finalement, tu crois donc que les membres du personnel blessé et leurs familles sont des arbres ou des pierres?
Écoutez.
Mais comment il peut dire des choses comme ça, vous le regardez aussi?
Nous, on voit. Nous, les étudiants et ceux qui ont été blessés, nous sommes tous des cadres de demain. Qu'en est-il de ces pauvres ouvriers?
Attends.
C'est pas possible.
Donc, selon toi, des pauvres ouvriers ne souffrent pas?
C'est là, Amani. Amani.
C'est pas normal.
Toi-même, tu comprends que si l'université devait perdre entre un étudiant et un ouvrier, la perte de ces derniers serait quand même moins regrettable.
Regrettable.
Mon va bien. C'est lui qui n'est pas d'accord avec ma façon de faire les choses.
Quoi?
Qu'il se retire.
Ce n'est pas une demande.
Vous encouragez ça?
Ce n'est pas une demande.
Tu dois ajouter toutes les victimes sur cette liste.
Tu dois ajouter.
Oui.
C'est pas une obligation.
Donc, selon toi, les pauvres ouvriers ne souffrent pas, demande l'un des étudiants. Une phrase qui résume bien le sentiment d'injustice que peut susciter ce genre de discours. Albert Maloukissa, dites-nous, quelles sont selon vous les conséquences sociales et psychologiques de ce type de langage dans un contexte de conflit?
Ah oui, les conséquences sont évidentes. D'abord, c'est des massacres qu'on peut enregistrer. On peut décimer des villages, comme le disait Josaphat. On peut convertir les autres en esclaves. Mais on peut détruire aussi les infrastructures. On peut pousser les autres à l'exil. Vous voyez les drames qu'on a à l'est, des milliers de gens qui quittent de temps à autre leur village parce qu'il n'y a plus de sécurité. Mais c'est occasionné par le discours de la haine. Tout ça, c'est occasionné par le fait que le vivre ensemble n'est pas partagé par tout le monde. Parce que ceux qui se battent là, c'est eux qui manipulent les discours pour opposer les populations. Et même quand ils prennent ce pouvoir-là, la population
n'en bénéficie
pas. Qui leur donne des pays pour parler, pour véhiculer les discours de la violence, pour passer à l'acte même. Mais cette population est tout simplement oubliée. Hein? Même en partant de votre sketch, on voit bien qu'il y a des extrémistes, il y a des radicaux, mais qu'il faudra aussi approcher ces gens-là pour leur faire comprendre que nous sommes tous des humains, nous avons tous les mêmes droits. Et c'est l'exercice que ses collègues essayaient de faire dans votre sketch-là, de faire comprendre à celui-là qui veut exclure les autres qu'ils ont tous le même droit, même les ouvriers. Mais je reviens à une considération que Joseph a venu d'avancer aussi. La justice transitionnelle, c'est capital. Hein? Lorsque les gens se comportent ainsi et il n'y a pas de sanctions, quelle que soit l'échelle, quelle que soit l'institution, ça détruit finalement la société. La société manquera de cohésion. Chaque communauté, chaque individu va chercher à travailler avant tout pour ses propres intérêts, en ignorant le fait que si on est ensemble et chacun travaille pour les intérêts de la communauté, on gagnera davantage.
Merci pour cette analyse, hein, professeur Maloukissa. Cette analyse donc me permet de revenir vers vous, Josapha Moussamba. Peut-on dire que des discours qui minimisent ou banalisent la souffrance de certaines victimes du conflit contribuent finalement à normaliser, voire à exacerber les violences dans une société? Et si oui, dans quelle mesure?
Je commence par dire oui, effectivement, ces discours ont plusieurs finalités et ont des impacts vraiment dans la société. Je voudrais justement qu'on reste pas sur le discours de seulement de conflit ou de la haine, mais en fait c'est un discours qui se construit, comme disait le professeur Maloukissa, un processus de socialisation à ces discours, par exemple des haines qui se construisent à l'intérieur de communautés, dans les structures sociales, dans les institutions sociales, surtout dans les contextes des conflits, dans le contexte des oppositions et alors de longue durée, comme je l'ai dit. C'est le cas, on peut voir chez les Yaka et les Teke, à l'ouest le Mobondo. On peut le voir aussi à l'est du Congo, beaucoup de tensions très localisées. On peut aussi voir cela au niveau académique. Aujourd'hui, il y a des discours qui se construisent en marge des problèmes qu'on rencontre à l'est du Congo. Et on peut le voir dans le contexte des conflits qu'on voit aujourd'hui, l'émergence du M23, l'extension de son territoire avec tous les problèmes. Alors, parmi les éléments que vous avez soulignés, j'ai dit oui. Ces discours ont plusieurs finalités. D'abord, ça va banaliser et va normaliser la violence dans une société. À un certain moment, on voit que ça construit, on socialise à la violence. C'est-à-dire que le discours va préparer la violence. Donc, c'est un processus de va-et-vient. La violence produite sur terrain, mais ça construit un autre discours. Et c'est ce que j'appelais au début la narratologie des conflits. Comment est-ce qu'on a, on s'explique, on se justifie dans le conflit. Et la violence est aussi bien symbolique et structurelle aussi. On peut le voir avec les structures administratives. Ça a aussi une autre finalité, invisibiliser les souffrances et les vulnérabilités des autres qui sont considérés comme des victimes. On va invisibiliser et on va les souffrances des victimes. C'est le cas de, lorsqu'on construit un discours, par exemple, pour les Banyamulenge, pour certains cas, dans le haut plateau et les Bembe, certains les considèrent comme des étrangers. Les autres aussi, les Banyamulenge, ils construisent une narratologie au niveau international, au niveau national, que c'est du génocide qui est fait là-bas, c'est l'épuration ethnique, mais ils ne voient pas que leurs groupes armés tuent aussi les autres communautés. Là, ça se justifie, mais c'est vraiment une narratologie, une narratologie qui se construit dans le contexte des conflits. Ensuite, dans la mesure où les actes sont commis sur le territoire et que certains ne reconnaissent pas qu'ils sont au centre des violences-là. Ce sont des conséquences qu'on peut voir. Enfin, j'ai dit dans le contexte de la justification auprès des décideurs à travers le monde ou les représentants des structures comme l'Union européenne, les États-Unis, le corps diplomatique, on peut voir ces éléments non seulement au niveau des conflits, parce que tout le monde va recruter les médias en ligne, recruter ce qu'un professeur à moi appelle les mercenaires académiques pour expliquer la position d'une partie en conflit. Pourtant, ils commettent beaucoup, ils tuent les gens, voyez-vous. Et ça, on peut le voir.
Oui, Josapha Moussamba, cette banalisation justement de la souffrance de certaines victimes, arrive finalement à changer notre perception globale du conflit. N'oublions pas que de nombreuses victimes sont des civils innocents qui n'ont jamais choisi de camp au détriment un camp au détriment d'un autre.
Oui, bien sûr, mais moi ce que je vois, il y a des victimes innocentes, oui. Mais il y a aussi des victimes qui ont ce que Robert Lahire appelle la disposition à agir. C'est-à-dire qu'il a la disposition à décider s'il ne peut pas rester dans une zone de conflit ou alors s'il ne va pas rentrer dans cette conflictualité. Il y a d'autres victimes qui sont victimes après, mais au départ, ils sont partis dans cette narratologie conflictuelle, dans ces narratifs de discours de conflit qui expliquent en fait que ce qu'ils commettent, ça ne produit pas des effets sur les autres. Et on peut le voir dans le conflit entre les Lese-Vonkutu et les Nande. On peut le voir dans le conflit entre les Hema et les Lendu. On peut le voir dans le conflit entre les Bembe et les Banyamulenge et les Fulu de Banyamulenge. Il y en a qui produisent pas mal de violences et qui produisent de vulnérabilité à des autres. Ils vont voler leurs vaches, ils vont les rasiller, ils vont brûler leurs maisons. Mais en contrepartie, les autres vont tuer une, deux, trois, voler une, deux, trois vaches, ou bien ils vont aussi tuer des parties là-bas. Mais lorsqu'on va justifier ces actes de violence, des groupes secrets, à la fois au niveau interne, au niveau national et au niveau international, même au niveau académique, des chercheurs qui vont construire seulement les discours qui justifie en fait les violences commises par les gens de leur communauté. Ça pose des soucis, Madame Babel Mpongo.
Merci encore une fois, Josapha Moussamba, pour ces explications qui nous permettent donc d'entamer la dernière partie de cette émission. Mais avant, écoutons un troisième extrait de notre feuilleton radiophonique. Cette fois-ci, nous allons voir comment nos amis les étudiants essayent finalement d'adopter un langage plus empathique qui tient compte de la souffrance de toutes les victimes. On écoute.
C'est l'argent sorti pour toutes les
bonnes. Vous ne pouvez pas m'obliger quelque chose.
Papa, arrêtez de vous disputer, s'il vous plaît. Je viens d'apprendre que l'un des ouvriers vient de rendre l'âme.
Chenali, Seigneur,
les médecins attendaient tout ce temps une décision sur la gestion de l'enveloppe. Et le peu de sang qui était disponible avait été réservé aux étudiants.
Non, mais attends. Oui, tu vois.
Merde.
Tout ça, c'est à cause de ton langage de minimiser les souffrances des autres. Alors que toutes les victimes sont égales. Maintenant, voilà que quelqu'un est mort à cause de l'influence négative de tes paroles.
Bah, écoutez. Fous-toi
en la coupe, à ta routine.
Mais Amani, attends.
Ce n'est pas que. Je suis vraiment désolé.
On a cause de la poussée, Mathieu, désolé.
Et si un accord n'est pas vite trouvé sur la gestion de cette enveloppe, d'autres personnes risquent de mourir.
Oui.
Donc il faut faire quelque chose.
Ouais, j'ignorais à quel point ça pouvait être dangereux.
Non, mais c'est grave, ça.
Oui, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Ajoutons tout le monde sur la liste pour les soins.
Oui, c'est ça. Faites ça.
Elle a aimé la base.
Faites ce qu'il vous dit. Bon, bah, ça va pas la liste. Vite.
Écoutez, que ceci nous serve de leçon. Dans des moments de crise, tout le monde devrait éviter d'utiliser un langage qui banalise les souffrances des autres.
Voilà.
Ce n'est pas bien.
Oui.
Nous sommes tous égaux face aux défis de la vie.
« dans des moments de crise, tout le monde devrait éviter d'utiliser un langage qui banalise les souffrances des autres, finit par conclure l'un des étudiants. Alors, Albert Maloukissa, est-il possible de promouvoir un langage plus apaisé, plus inclusif, même dans un contexte de conflit, comme c'est le cas actuellement dans l'Est de notre pays?
Absolument, c'est possible, c'est faisable, parce que qui crée les conflits, ce sont les hommes, ce sont les communautés, et les mêmes hommes, les mêmes communautés sont à mesure de trouver un compromis pour le vivre ensemble. C'est là où je pense que l'État, les églises, les leaders de nos communautés doivent vraiment se ressaisir pour véhiculer des discours qui favorise la cohésion au sein de la communauté, la cohésion nationale. Parce qu'en définitive, c'est tout le monde qui est perdant. Ce qui se passe aujourd'hui à l'Est et dans d'autres coins de la République, c'est des événements qui devaient amener les Congolais à se ressaisir, à comprendre que l'avenir de nous tous, c'est le Congo, c'est notre patrimoine commun. Et il faudra que déjà par les discours, déjà par la façon de parler, nous puissions nous respecter mutuellement. Vraiment, nous sommes arrivés à une phase critique de l'État congolais où, si on ne fait pas attention à ces discours de la haine, à ces discours de stigmatisation, ça sera un effondrement total et on ne parlerait plus du Congo.
Oui, Josapha Moussamba, à part les acteurs du conflit, les utilisateurs des réseaux sociaux se lancent également dans des discours minimisant les souffrances de certaines victimes du conflit qui sévit dans l'Est de la RDC. Alors, comment promouvoir un débat public plus apaisé et tenant compte des souffrances de toutes les victimes sur les plateformes digitales?
La première réponse, c'est que lorsque les acteurs seront sincères avec les faits sur terrain, c'est-à-dire ne pas chercher à les minimiser ou à les amplifier, lorsqu'ils vont être justes, sans avoir à être neutres, parce qu'il n'y a personne qui, dans ce monde, qui soit neutre dans leur démarche, cela pourra aider. Deuxièmement, les instances de justice devraient tenir compte de toutes les victimes.
Toutes les victimes, oui.
Qu'il s'agit d'une crise ou de conflits. L'autre élément, c'est quand l'État congolais, à tous les niveaux, au niveau local, au niveau provincial et national, aura décidé de faire justice ou de rendre justice à la mémoire des personnes tuées dans les conflits armés. Voyez-vous? Et ça, ce serait super intéressant. Et ça, on peut le voir en long terme ou dans le processus qui vient.
Merci.
Enfin, pour moi, enfin, c'est quand les universités et à terre des pays voisins, que ce soit le Rwanda, le Burundi et les autres, les États de l'Union européenne, les États-Unis, auront compris que lorsque le membre de la diaspora viennent manifester devant eux, leur bureau, qu'ils leur exigent des versions contradictoires des faits. On doit écouter tous les autres sans écouter un seul groupe.
Tout à fait, Josapha Moussamba. Merci encore une fois pour cette dernière analyse qui nous permet donc de conclure cette émission. En fin de compte, nous retenons que de cette discussion que la banalisation des souffrances de certaines victimes de conflits peut exacerber les tensions en cours, Babel.
Oui, Polly, ce langage polarisant a tendance à normaliser les injustices et à perpétuer les cycles des violences. Il ne s'agit pas de eux contre nous. La souffrance n'a pas de camp, il faut le rappeler, elle est universelle. Et quelle que soit l'identité des victimes, leur souffrance mérite d'être reconnue et prise en compte.
Effectivement, Babel, la banalisation de ces souffrances est une forme de violence en elle-même. Elle nous éloigne de l'idée d'une société solidaire et juste. Merci encore une fois à nos invités Albert Maloukissa et Josapha Moussamba d'avoir accepté de nous rejoindre dans cet échange. Nos remerciements s'adressent également à Paul Badianyama qui nous a accompagnés du côté de la régie technique.
Et bien entendu, merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre attention et votre fidélité. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, un magazine proposé par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Retrouvez cet épisode en rediffusion ce samedi à 11h05 et 19h05 de Kinshasa sur les ondes de Radio Okapi ou à tout moment sur www.radiokapi.net et www.abarirdc.net.
En attendant, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et suggestions sur les pages Facebook et X de Radio Okapi et Abari RDC. Merci encore une fois et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est le ton qui fait la panique. Au revoir.
Au revoir.
C'est le ton qui fait la panique.
une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capitaine.